podcast.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur On Air, le podcast de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Je m'appelle Sophie Cholet, je suis journaliste et je vous propose le temps d'un trajet en métro ou en bus de tout comprendre sur un sujet de recherche. Aujourd'hui, on s'intéresse au corps, cette enveloppe qui nous représente face au monde, cette enveloppe que nous nous représentons pourtant parfois avec souffrance. La chercheure que je reçois dans On Air travaille justement depuis de nombreuses années sur les troubles de l'image du corps et les troubles alimentaires. Bonjour Amélie Rousseau.
Bonjour Sophie.
Vous êtes professeure en psychopathologie, chercheure au Centre d'études et de recherche en psychopathologie et psychologie de la santé, le CERPS, à l'Université Toulouse Jean Jaurès, laboratoire, je précise, que vous co-dirigez et vous exercez également en tant que psychologue. Les troubles alimentaires, Amélie Rousseau, on va les détailler dans quelques instants, mais j'aimerais avant cela que vous nous expliquiez pourquoi vous faites le lien entre troubles alimentaires et troubles de l'image du corps.
En fait, si vous n'avez pas de troubles de l'image du corps, il n'y a pas de troubles alimentaires. C'est-à-dire que les troubles de l'image du corps, c'est vraiment le dénominateur commun à l'ensemble des troubles alimentaires répertoriés dans les nomenclatures psychiatriques.
Oui, mais on a tous, à un moment donné, on est tous plus ou moins insatisfaits de notre corps, on a tous un jugement implacable sur notre cuisse, notre bourrelet ou que sais-je. À quel moment, en fait, on peut parler de troubles de l'image du corps ?
Une des composantes essentielles des troubles de l'image du corps, c'est l'insatisfaction corporelle, hein. C'est la distance qui existe entre ce que je suis et ce que je voudrais être physiquement. Et plus cette distance est grande, plus je peux souffrir d'insatisfaction corporelle. Donc, il faut le voir comme un continuum allant, je dirais, d'une préoccupation normale, hein, comme vous le dites, on peut être insatisfait de ses cuisses, etc., à une préoccupation excessive qui a un impact majeur sur mon adaptation psychosociale.
Qui devient un peu obsessionnelle, c'est ça ?
Tout à fait.
Et alors, à quel moment ça dévie vers le trouble alimentaire ?
Alors, ça dévie vers le trouble alimentaire quand cette insatisfaction corporelle va amener la personne à mettre en place toute une série de stratégies pour justement essayer d'améliorer cette insatisfaction. Ça peut être de la restriction alimentaire, ça peut être exercer un sport de manière excessive, ça peut être aussi utiliser différentes stratégies pour essayer de perdre du poids qui sont considérées comme nocives pour la santé aussi bien physique que mentale.
Alors j'imagine qu'il y a plusieurs manifestations, mais qu'il y a aussi des troubles alimentaires, des grands troubles alimentaires qui ont été répertoriés.
Oui, tout à fait. On en dénombre trois, les trois principaux, hein, l'anorexie, la boulimie et ce qu'on appelle aussi le binge eating disorder ou en français l'hyperphagie incontrôlée.
C'est comme le binge drinking, mais version aliment solide, quoi.
C'est tout à fait ça. Et ce trouble se distingue des autres puisqu'effectivement, il y a des espèces de compulsions alimentaires avec un sentiment de perte de contrôle. Et comme il n'y a pas de stratégie mise en place pour essayer d'éliminer cette ingestion, eh bien, il y a une prise de poids. Et c'est pour ça que c'est un trouble qui est souvent associé au surpoids et à l'obésité.
Et contrairement aux deux autres, la boulimie par exemple, on se fait vomir, c'est ça ?
Alors oui, alors pas forcément, mais ce qui caractérise la boulimie, c'est la présence de compulsions alimentaires. C'est-à-dire qu'on va manger beaucoup, en peu de temps, avec, et j'insiste là-dessus, un sentiment de perte de contrôle. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne peut plus s'arrêter de manger. Alors, soyez rassurés aussi, on peut avoir passé une mauvaise journée à rentrer chez soi, faire une compulsion alimentaire sans avoir un trouble du comportement alimentaire. D'accord ? Il y a vraiment toujours, pour poser un diagnostic, il y a cette notion évidemment de durée et aussi de fréquence du comportement.
Mmh. On a parlé de la boulimie, on a parlé du binge eating, l'anorexie. Qu'est-ce qui la caractérise ?
Alors, l'anorexie, un critère qui la différencie des autres troubles, c'est un indice de masse corporelle très très bas. On parle en fait de corps décharné, où il y a une dénutrition massive qui implique bien souvent d'hospitaliser pour mettre en place un processus de renutrition. On a deux types hein, d'anorexie. On a l'anorexie restrictive, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne mangent pas, quasiment pas, une pomme par jour. Et on a, il n'y a pas de compulsion alimentaire. Elles ne mangent pas, elles n'ont rien à éliminer, elles ne mangent pas. Alors que l'anorexie de type purge, là, on a des compulsions alimentaires, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, Mais on a mis en place des stratégies de contrôle de poids. Alors, vous citiez les vomissements. Il y a les vomissements, il y a les laxatifs, il y a les diurétiques, il y a le jeûne, il y a les coupes faim, le tabagisme, etc.
Parce qu'on se dégoûte, c'est ça ?
C'est ça. Après la compulsion alimentaire, ce qui caractérise vraiment aussi cette compulsion alimentaire, c'est que la personne éprouve un sentiment très très fort de culpabilité, de dégoût de soi. Et évidemment, ces émotions, très très intenses, vont renforcer la restriction et l'estime de soi basse, puisque c'est aussi l'estime de soi un facteur qui est commun aussi à l'ensemble des pathologies alimentaires.
Vous avez parlé tout à l'heure de sentiment de perte de contrôle pour l'un des trois troubles alimentaires, mais est-ce qu'il ne serait pas commun justement ce désir de contrôler son image, son corps aux trois pathologies ?
Oui, tout à fait, mais après c'est toujours un contrôle excessif en fait de l'alimentation, et forcément ce côté excessif amène à un moment donné une levée de l'inhibition et à la compulsion alimentaire. Voilà. La compulsion alimentaire, c'est quelque chose qui est commun à ces trois troubles, mais qu'on ne retrouve pas forcément dans l'anorexie restrictive. Mais dans la boulimie et dans l'hyperphagie ou le binge, on a ces compulsions alimentaires.
Et alors ces troubles, est-ce qu'ils concernent hommes et femmes indifféremment ?
Alors, ils concernent beaucoup plus les femmes que les hommes. Après, ce que je dis souvent, c'est que les critères diagnostiques ont été créés principalement pour les femmes. Donc, je pense qu'on en arrive à sous-évaluer la présence de troubles du comportement alimentaire chez les hommes, car les critères diagnostiques n'ont pas été développés, en fait, pour les hommes. Et on voit qu'il y a des spécificités aussi chez les hommes, comme l'usage de substances, etc. Alors, classiquement, les femmes, c'est plutôt l'idéal de minceur, et les hommes, c'est plutôt l'idéal de musculature. Donc, ils vont mettre en place un certain nombre de stratégies pour augmenter la masse musculaire, notamment la prise de substances.
Idéal de minceur, idéal de musculature pour chacun des deux sexes, ça amène ça directement au cœur de votre recherche, c'est-à-dire l'image du corps, en fait.
C'est ça. Alors,
Qui la forge, cette image du corps ?
Alors, il y a plusieurs facteurs qui viennent contribuer au développement de l'image du corps. Il y a tout ce qui est processus de socialisation, c'est-à-dire dans quelle société je vis, quels sont les idéaux qui sont valorisés. Il y a aussi les relations interpersonnelles, c'est-à-dire quelle est la relation que j'ai eue avec les autres par rapport à mon corps. Est-ce que j'ai fait l'objet de moqueries ? Est-ce que j'ai fait l'objet de remarques, de taquineries, etc. Il y a aussi des facteurs psychologiques qui viennent aussi contribuer à l'image du corps, comme l'estime de soi, le perfectionnisme. Et enfin, on a les caractéristiques physiques qui contribuent au développement de l'image du corps. Et ces caractéristiques physiques, elles sont évolutives. Donc, c'est-à-dire que chaque fois, on peut avoir un remaniement positif ou négatif aussi de l'image du corps.
Tout ça, ce sont les influences socio-culturelles que vous étudiez, vous, particulièrement ?
Oui, moi, je suis spécialisée dans ces influences socio-culturelles qui viennent principalement des médias, des pères, des amis, et de la famille. Et ensemble, ces trois sources vont implicitement ou explicitement diffuser des idéaux auxquels il faut adhérer pour être dans la norme.
Ça nourrit, ça construit l'image qu'on a de soi-même en miroir, quoi, quelque part.
Tout à fait, parce que... Alors, ça va même plus loin que ça. Après, je ne sais pas, vous allez dans un magasin de vêtements, vous essayez des vêtements et vous rentrez dans rien. Ça vous renvoie à quoi ?
Une image très négative.
Voilà, c'est-à-dire que je ne rentre pas dans la norme. La taille moyenne des Françaises, c'est 42.
Ah oui.
Alors, allez dans les magasins et voyez la majorité des tailles.
Ça démarre au 32.
Donc ça aussi, c'est une expérience de stigmatisation. Ça veut dire que ça renvoie le fait, mais en fait, que j'ai un corps qui ne correspond pas à la norme véhiculée.
Ouais. Alors vous êtes chercheur, vous êtes aussi psychologue. Ça veut dire que vous travaillez précisément sur l'image du corps à restaurer une image plus conforme.
C'est ça. Alors j'ai, en tant que chercheur avec mes doctorants, mis en place plusieurs programmes, notamment de prévention, parce que vous l'avez compris, les TCA, c'est une maladie grave, très très impactante, très chronique. Et on a une série de programmes qui préviennent, qui, qui ont pour objectif de prévenir l'apparition de ces troubles, notamment en valorisant la fonctionnalité du corps, c'est-à-dire ce que mon corps est capable de faire, de bouger, de chanter, d'aller à un endroit A, à un endroit B, etc., plutôt en fait que les qualités extrinsèques de mon corps, ce qui donne à voir. Hein. Mm-hmm. Voilà. Et aussi, il y a de la prévention qui est faite par rapport à l'éducation aux médias, c'est-à-dire essayer de développer l'esprit critique par rapport à ce qu'on nous montre et la réalité.
Qui est très normée, effectivement, et uniformisée, ce qu'on nous montre.
Ouais. Ouais, ben vous allez sur les réseaux sociaux, etc. Alors ça aussi, c'est une évolution aussi sociétale, parce qu'il y a 20 ans, on n'avait pas les réseaux sociaux, etc. On n'avait pas... Et là, ben, forcément, avec ce développement, ben, ça accélère aussi le mécanisme de comparaison sociale, hein, de je me compare à l'autre, je me compare à ce que je vois sur les réseaux sociaux. Et généralement, c'est de la comparaison plutôt ascendante, avec des images que je considère comme plus attractives que moi physiquement.
Mmh. Alors, les programmes que vous mettez en place, justement, par exemple, sur la fonctionnalité corporelle, ça donne des résultats ?
Oui, alors on a réalisé une étude avec une de mes doctorantes qui s'appelle Claire Arnaud. Et en fait, on a, alors de manière très très synthétique, on a fait trois groupes de participantes. C'est un des groupes qui était ouvert aux étudiantes. Mmh. Un groupe fonctionnalité, donc où on allait promouvoir la fonctionnalité du corps. Un groupe aussi, plutôt tout ce qui est éducation aux médias, internalisation, enfin comment essayer de lutter contre tous ces processus. Et un groupe contrôle. Et on a montré que c'est le groupe fonctionnalité qui avait le plus grand bénéfice en termes d'amélioration de la satisfaction corporelle.
Ça se voit à travers des questionnaires, ça ?
C'est ça, questionnaire ouais. Plus des entretiens. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que je vois ce que mon corps est capable de faire, encore une fois, et que ce n'est pas qu'une enveloppe qui est montrée.
Mmh. Voilà. Et oui, et du coup, ça change le regard, forcément, qu'on a sur soi-même.
Oui, ouais. Tout à fait. Et puis, dans ce programme aussi, il y avait vraiment aussi une valorisation aussi des qualités plutôt intrinsèques hein, des individus, c'est-à-dire leurs qualités psychologiques, de caractère, etc.
Et ça, ils l'entendent ?
Oui, ils l'entendent. Ouais. Mais c'est dur, hein, voilà, il faut lutter quand même contre une pression quand même socio-culturelle. Parce qu'il y a cette idée que pour être heureux, il faut être mince, voire maigre.
Ça, c'est dans notre société, nous, occidentale.
Oui. Mmh. Oui, parce que vous allez dans d'autres sociétés, c'est l'embonpoint qui est valorisé et c'est les personnes qui ont un embonpoint qui accèdent à des fonctions, à des hautes fonctions en fait.
Mmh.
Et on voit bien que les idéaux sont différents d'une culture à l'autre. Les cultures hispaniques, vous avez ce qui est valorisé.
C'est la rondeur.
Voilà, et le développement des fessiers.
J'aimerais qu'on aborde aussi, dans votre travail de thérapeute, qui est en lien étroit avec la recherche scientifique, et c'est l'approche, vous, cognitivo-comportementale. Liste, c'est ça ?
Mm-hmm.
Qui est la vôtre ? C'est quoi cette approche ? Ça consiste en quoi ?
Alors, on part du postulat hein, avec nos modèles qu'en fait, la pathologie se développe dans un contexte cognitif, comportemental et émotionnel. Et que c'est ces trois composantes qui viennent expliquer le développement d'une pathologie. C'est des modèles qui ont été empiriquement validés par beaucoup d'études et on a voilà donc on va travailler spécifiquement avec nos patients sur la sphère cognitive, comment essayer de changer ces pensées dysfonctionnelles. Alors je le fais de manière très très synthétique hein, c'est un peu plus complexe que ça, sur le domaine émotionnel, c'est-à-dire comment réguler mes émotions. Parce que c'est vrai qu'une des manières de réguler ses émotions rapides et efficaces,
c'est de manger.
Voilà. Mmh. Et aussi au niveau comportemental. Voilà. Donc, on a trois domaines, alors je synthétise encore une fois, qui vont nous permettre de travailler avec le patient. Et ce qui nous caractérise aussi, c'est qu'on accorde une importance à l'efficacité de ce qu'on met en place. Donc, on fait de l'évaluation. Voilà. On veut suivre l'évolution, etc. Alors après, oui, les TCA, etc., il y a des critères. Après, il ne faut jamais oublier la singularité.
Des personnes.
Des personnes. Donc, ce qu'on va mettre en place est forcément adapté à chaque individu, avec une histoire qui lui est aussi propre.
Je peux vous demander, Amélie Rousseau, ce que vous pensez du mouvement qui a été lancé il y a quelques années, de Body Positive Movement, justement. Il a été lancé aux États-Unis par deux femmes dans une association. Et a priori, comme ça, à vue de nez, on pourrait dire ah, bah, ça rejoint l'image du corps. Mais à mon avis, ça ne doit pas être si simple que ça. Je ne sais pas pourquoi.
Oui, non, ce n'est pas aussi simple parce que... Alors,
il évidemment... a été décrié, ce mouvement.
Oui, alors évidemment, ça part d'une bonne initiative, c'est-à-dire diversité morphologique, diversité des corps, etc. Pour moi, le problème, c'est que ça reste du corps. Et quand vous vous exposez quelqu'un à du corps, à une image de corps, il y aura forcément de la comparaison sociale. Alors pour certaines, elles vont être soulagées, hein, elles vont dire « Ah ben non, moi, j'ai pas ce problème de poids ou j'ai pas ce problème de peau, etc. » Pour d'autres, il va peut-être avoir une peur qui va s'installer de devenir comme cette personne.
Mmh.
Et ça reste encore du corps.
Donc ça ne résout pas le problème.
Non. Et quand il y a du corps, quand on nous présente du corps, quand on est exposé à de la photo, des films, etc., il y a forcément un processus d'évaluation.
Et c'est forcément en lien avec ce qu'on disait depuis le début de ce podcast, le rapport à l'image du corps. Amélie Rousseau, il y a une tradition dans On Air, c'est de demander à l'invité une référence. Alors ça peut être une expo, un livre, un documentaire, ce que vous voulez, sur le thème qu'on vient d'aborder. Quelle serait la vôtre ?
Alors, moi, j'ai deux ouvrages à proposer qui sont... C'est des self-help. Donc qui
c'est quoi des self-help ?
Alors, c'est des livres qui sont censés aider les individus avec des exercices pratico-pratiques, etc. Il y a comment sortir de l'anorexie et il y a comment sortir de la boulimie. Et c'est François Neff, un Belge, qui a écrit ces deux ouvrages. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il a la double casquette. Il a la casquette à la fois de chercheur, mais aussi de clinicien et praticien. Donc, en gros, il sait de quoi il parle.
Merci beaucoup, Amélie Rousseau, d'avoir accepté notre invitation. On Air est une production de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, portée par le Centre de promotion de la recherche scientifique, le service communication et le pôle production, le vidéographe de la Maison de l'Image et du Numérique de l'UT2J. La réalisation est signée Cédric Perronnet du pôle production, le vidéographe. On Air est diffusé sur Miroir, le web média de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, et est accessible via le site www.univ-tlse2.fr de l'Université.
On Air.